Franc Ouest est une production de l'association des francophones des Kootenays Ouest,
AFCO,
diffusée sur webwest.ca.
Entendons-nous bien.
On essaie de fabriquer 5 canots par semaine. Ça prend du temps à avoir un canot elle-même, mais quand tu vois un canot fini, que t'as fait de A à Z, je suis la seule fille dans l'équipe, c'est pas mal une fierté.
Présenté par l'AFCO, vous écoutez Franc Ouest, balado sur les francophones et les francophiles fascinants des Kootenays Ouest. Je suis Patrick Lac, et ceci est la saison 1, Francophonie sauvage.
Je viens du Saguenay, de la baie. J'ai une soeur jumelle, puis un frère plus jeune. La particularité chez nous, c'est qu'on est les trois homosexuels. Fait qu'on est assez unique dans notre genre. Mais on est très différents l'un de l'autre. Puis j'ai fait là, de 6 ans à 20 ans de la nage synchro, niveau compétitif, jusqu'à ce que je transfère la nage synchro pour le kayak de rivière.
Passionnée de kayak de rivière, la Québécoise d'origine Alexandra Tremblay nous parle de son implication au sein de Pink Water, organisme sans but lucratif qui vise à promouvoir les sports d'eau vive chez les femmes. Diplômée de l'Université du Québec à Chicoutimi en plein air et tourisme d'aventure ainsi qu'en gestion, elle décide de tout quitter en 2019 pour suivre sa conjointe et s'établir à Nelson, en Colombie-Britannique. Elle nous parle de relations à distance, de dépassement de soi et de son changement de carrière pour la fabrication de canots à la main pour la compagnie locale Hellman Canoes. Rendez-vous à la rivière Slocan pour une run de fin de journée, comme elle dit.
Ben, bienvenue en studio.
Merci.
Moi, j'aime bien commencer direct dans le vif du sujet. C'est quoi un peu ta bio? Tu viens de où? Qu'est-ce qui...
J'ai de la baie. Après ça, tu veux comme avoir un gros portrait ou...
Part de ta naissance.
OK.
Non, juste les affaires marquantes, les choses...
Moi, je suis une sportive d'eau. Pas mal tout ce qui touche la rivière. Fait kayak de rivière, puis canot aussi. Tout ce qui est paddle sport. J'ai passé mes 35 premières années de ma vie au Saguenay. Puis j'ai rencontré, dans le fond, ma partenaire, Sophie. On vient de la même ville. On s'est rendu compte que ça cliquait. Fait que je suis venue la rejoindre à Nelson en septembre 2019. Ça a été quand même difficile de trouver un emploi au début. Fait que j'étais un an et demi environ sans emploi parce qu'il y a eu toute l'affaire de la COVID et tout et tout. J'ai étudié dans le domaine du plein air. Puis après ça, j'ai fait une maîtrise en gestion des organisations. Puis pendant 8 ans, j'ai travaillé comme directrice du bar de l'université. J'ai quand même une job assez cool parce que je vivais la vie sociale universitaire à chaque année. En même temps, pendant mes étés, je venais enseigner le kayak dans l'Ouest pour Rocky Mountain Cadet Training Center. Fait que j'étais un instructeur civil, qu'on appelle. Puis j'enseignais le kayak aux cadets. J'ai été l'organisme Pink Water, qui est un organisme à but non lucratif, qui vise à faciliter les sports d'eau vive chez les femmes. Fait que pendant plusieurs années, ça continue encore d'ailleurs, mais là je suis moins impliquée là-dedans vu que je suis plus au Québec, mais on organisait un événement à chaque année où c'était pour les femmes, pour les amener sur la rivière, tout encadré, puis pour faciliter le sport d'eau vive. Puis on a quand même, on a fait notre marque au Québec, puis maintenant, le pourcentage de femmes dans le sport a augmenté là, depuis que nous, on est là. Fait que ça a été une belle réussite. Finalement, commencer à travailler pour Hellman's Canoe, puis me rendre compte que finalement, j'aime vraiment beaucoup ça, puis que c'est vraiment une belle équipe, c'est comme une famille, puis que c'est dans le sport d'eau. Puis maintenant, je fabrique des canots.
C'était un excellent aperçu de ce qu'on va parler. J'aimerais ça qu'on parle un peu plus, peut-être, quand vous avez décidé là, d'embarquer dans Pink Water,
ouais.
Ça ressemblait à quoi la situation, disons, des femmes dans ce sport-là?
Les deux fondatrices de Pink Water, c'est Cheryl Gravel et Audrey Haillé. Plus que des kayakistes. Puis à amener, ils ont réalisé qu'ils étaient toujours les deux seules filles avec une gang de gars. Puis je veux pas, les filles, les gars, ça apprend différemment, puis ça pratique le sport différemment. Ils ont voulu faire de quoi, dans le fond, pour le rendre accessible, parce que souvent, les filles étaient un peu intimidées par le kayak, parce que c'est tellement masculin. Puis c'est quand même, c'est, la rivière est très intimidante aussi, fait que c'était un sport qui était difficile d'approche chez les femmes. Donc Cheryl et Audrey ont décidé de créer Pink Water. La première édition a eu lieu en 2014, puis moi j'ai été participante. Puis c'est là ce que j'ai créé vraiment une très très bonne relation d'amitié avec Cheryl. On se connaissait déjà un peu parce qu'on avait compétitionné l'une contre l'autre en allant chez synchro. Puis après la première édition comme participante, j'allais voir Cheryl pour dire ben si t'as besoin d'aide, je serais intéressée. Moi, j'avais un background au niveau de la gouvernance puis de l'administration que eux y avaient pas. Tout de suite à l'automne 2014, elle est venue me chercher puis je suis embarquée avec eux puis c'est là qu'on a incorporé l'organisation. Je suis devenue présidente du conseil d'administration. Puis notre objectif, c'était vraiment faciliter les sports d'eau vive chez les femmes. On a fait 5 éditions au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a réalisé qu'on avait vraiment réussi notre objectif, parce qu'au Québec, le niveau d'inscription de filles auprès de la Fédération d'eau vive avait clairement augmenté là, dans les 5 années où il y a eu Pink Water. Il l'a encore, mais c'est différent. Maintenant, on organise des expéditions d'envergure sur des rivières dans le nord du Québec. On essaie d'innover, mais il a fallu, en fait, innover avec la COVID parce qu'on pouvait plus faire un événement. Fait qu'on a changé pour une expédition. Maintenant, je m'occupe plus du côté gouvernance puis de m'assurer que l'organisme roule sur les rails. Mais au départ, là, j'étais vraiment impliquée au niveau de l'organisation de l'événement puis... Pink Water, c'est un nom qui est connu dans le monde du kayak un peu partout. C'est un beau leg, puis on voit, c'est ça, ça a un impact sur la communauté de kayakistes, puis ça a maintenant aussi un impact sur les hommes, ou ce qui revoit un peu leur approche. Parce que souvent, ce qui arrivait dans le monde du kayak, c'est que les hommes voulaient pas traîner des femmes sur des rivières un peu plus avancées par peur qu'il y ait un nageur puis que mais tu sais alors qu'il y a des filles qui sont autant bonnes que les hommes mais c'était un peu c'est ça une limitation aux filles de pouvoir avancer plus dans le kayak en partageant nos valeurs puis en venir à inviter les hommes à l'événement pour aussi enrayer les comportements un peu néfastes par rapport au genre dans le sport puis on a réussi à amener une nouvelle dynamique dans le monde du kayak.
Si tu compares avec ce que tu vois ici dans la pratique du sport, est-ce qu'il y a des différences, des parallèles?
Il y a beaucoup de similitudes au niveau du mode de vie avec le Saguenay. Surtout que, tu sais, moi, au Saguenay, mon groupe, mon réseau, c'était un réseau de plein air, c'était très culturel, puis où il y avait beaucoup de sorties, puis d'événements comme des slams Saguenay, puis des regroupements d'artistes, des choses comme ça, puis de plein air. Tu sais, je suis restée dans le même genre de réseau ici aussi, fait que ça a été très similaire. Mais ici le lien de communauté est très, très fort, là, qui est différent un peu là, de, je pense, partout ailleurs au Canada. Ben, sûrement qu'il y a d'autres communautés comme ça, mais on peut sentir là, le sentiment d'appartenance à la communauté ici. Ben, c'est vraiment spécial parce que chaque région dans le monde du kayak a sa gang, si on veut. T'sais, même t'sais, si on prend juste, moi, je connais beaucoup le Québec, la gang du Saguenay, la gang du Québec, la gang de Montréal, t'sais, puis c'est vraiment en fonction du type de rivière que t'as. T'sais. Comme exemple, à Montréal, c'est beaucoup plus du playboat qui se fait parce qu'il y a les rapides de la chaîne, puis c'est plus un style surfeur, si on veut. C'est un peu cliché, là, mais... C'est quand même des traits distincts. Puis j'ai remarqué ici, c'est que dans l'Ouest, c'est plus inclusif, j'ai l'impression. Qu'il y a exemple au Québec, où ce qu'il y a des groupes de kayakistes masculins qui sont très avancés, puis qui peuvent être intimidants lorsqu'ils sont en groupe. Mais ce que j'ai trouvé ici, c'est que ça a été facile de m'intégrer au groupe de kayak, puis d'avoir tout de suite une gang pour pagayer, puis d'avoir... Des gars puis des filles qui nous lidaient sur des rivières qu'on connaissait pas. Fait que, ouais, j'ai trouvé que c'était inclusif ici. Plus un peu qu'au Québec.
Je sais pas si ça fait partie de la culture générale, tu sais. Des personnes du BC, je remarque ça, qu'il y a peut-être une plus grande tolérance.
Je sais pas, parce que dans certains, comme exemple, dans d'autres sports, c'est plus difficile d'être intégré, comme dans le backcountry. Même chose un peu avec l'escalade, j'ai l'impression, mais avec l'eau vive ici, on dirait que c'est différent. Peut-être parce que la rivière, il y a toujours une rivière locale qui est la run de fin de journée, si on veut, qui est la Slow Can ici, qui est très facile, si on veut, mais qui a quand même des challenges, puis où est-ce qu'on peut avoir un bon entraînement, puis où est-ce que la communauté se rejoint là, puis qui est très, très inclusive, puis ouverte à amener des nouveaux qui arrivent, puis ça a comme été facile d'intégrer, puis il y a tous les âges, c'est ça qui a été surprenant, tu sais, souvent, c'est des personnes dans la vingtaine, mais là, ici, les premières personnes avec qui j'ai pagayé, c'était des gens qui étaient retraités. Il y a peut-être plus de maturité au BC, étant donné le large. Il y a beaucoup, beaucoup de gens de plein air puis qui viennent ici pour cette raison-là puis qui vivent toute leur vie là-dedans.
Et tantôt, tu disais que tu étais venu déjà dans l'Ouest avant de vraiment t'établir.
Je travaillais pour le camp de cadets, dans le fond, c'était en Alberta. C'est Rocky Mountain Cadet Training Center. Les instructeurs doivent être bilingues parce que, dans le fond, ils reçoivent les 200 meilleurs cadets du Canada par année qui viennent passer 6 semaines à faire, à chaque semaine, des changes de sport. Dans ce curriculum-là, il y a une semaine où ils sont en eau vive, soit en canot, soit en kayak. Puis moi, j'étais instructeur de kayak. Fait qu'on les prenait à zéro, on les formait pour que, dernière journée, le vendredi, ils puissent franchir un rapide de classe 3. C'était leur challenge, parce que dans le fond, c'est un camp de leadership puis de dépassement avec un cursus militaire, mais qui est quand même vraiment une belle expérience pour les jeunes. Au fond, c'est ça, j'ai fait 2 étés là-bas, puis ça a été une des jobs les plus trippantes que j'ai eues. Tout ce que t'as à faire, c'est enseigner le kayak, puis quand c'est ta passion, ben c'est super, là. Puis la fin de semaine, quand on était en congé, bon, on partait pagayer sur les différentes rivières de l'Alberta, fait que c'était vraiment des étés trippants, là.
As-tu eu le coup de foudre pour l'Ouest? Est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es dit « Ah, je veux déménager ici? »
Ouais, mais j'ai eu des réflexions là dans... C'est pas mal là que je l'ai lancé dans les airs, là, qu'un jour j'allais sûrement vivre dans l'Ouest. Mais je suis quand même quelqu'un de vraiment beaucoup familial, qui tient beaucoup à sa famille, puis fait que c'était quand même pas évident de faire le move, mais quand j'ai rencontré Sophie, ben là, ça a vraiment cliqué. Quand t'arrives à Nelson, puis t'as déjà une place où rester, c'est comme un gros plus, là, fait que...
Parle-moi un peu comment ta famille a pris ça, parce que, tu sais, je sais que, en tout cas, au Saguenay, le monde sont vraiment proches. Souvent, les personnes vont retourner l'été pour passer leurs vacances, tu gardes toujours un lien avec ta gang.
Ouais.
Et là, en plus, toi, tu sais, t'as une famille qui vous semblait très proche, t'as une sœur jumelle. Comment ils ont pris ça, le fait que là, tu déménages à genre 4500 km?
Ils étaient un peu habitués à me voir partir. Je partais les étés, mais je revenais tout le temps. Puis, tu sais, ils savent l'amour que j'ai pour l'aventure puis le plein air. Fait que ils étaient contents pour moi parce qu'ils savaient que je serais heureuse là-bas puis que j'allais vivre quelque chose de beau. Je pense que ça a été un peu plus difficile pour ma sœur. On était très, très proches. On l'est encore. On maintient quand même le lien parce que maintenant, avec la technologie, c'est quand même assez facile. C'est sûr que ce qui est plus difficile, je pense, c'est le fait que de voir vieillir mes parents puis d'être loin d'eux. Mais ils savent que je suis heureuse puis que j'ai une bonne vie ici puis qu'ils sont venus me visiter puis ils ont rencontré mon milieu, mon monde puis ils comprennent pourquoi j'en ai ici. Tant qu'on est heureux, c'est ce qui compte pour eux, là.
Clinique dentaire Kootenay Lake. La clinique dentaire multilingue des Kootenays. Graduée en 2016 de l'Université de Montréal, Dr Anne-Marie Claveau est une passionnée de médecine dentaire.
Quand j'ai vu le patient, il était cédulé pour qu'on y extrait sa dent. Quand j'ai vu la radiographie, j'étais comme... C'est vraiment une bonne dent encore, vraiment sauvable. Ça serait pas un coût exorbitant puisque la dent, dans le fond, elle a juste un petit canal.
Trilingue, elle offre ses services de dentiste généraliste en français, espagnol et en anglais.
J'ai expliqué au patient que ça valait vraiment la peine de sauver la dent, mais tu sais que c'était totalement son choix. Là, s'il voulait faire l'extraction, on pouvait. C'est important que les patients ils comprennent. T'sais, moi, j'essaie toujours d'expliquer puis de montrer, soit avec des photos ou comme d'expliquer un peu avec les radiographies pour que le patient comprenne qu'est-ce qui se passe. Puis qui comprennent ces options de traitement.
Que ce soit pour une chirurgie complexe, un traitement d'orthodontie, une greffe de gencive ou simplement pour une seconde opinion, prenez rendez-vous avec Dr. Anne-Marie Claveau pour discuter de votre santé bucco-dentaire. Visitez la clinique dentaire Kootenay Lake au 556 rue Joséphine à Nelson ou via le site kootenaylakedental.ca. Et n'oubliez pas de mentionner que vous avez entendu parler de notre commanditaire grâce au balado Franc Ouest. Merci de soutenir votre francophonie locale.
Je suis Patrick Lac et vous écoutez Franc Ouest, saison 1, francophonie sauvage. Enregistré au studio de l'AFCO à Nelson, en Colombie-Britannique, voici la suite de ma conversation avec notre invité aujourd'hui, Alexandra Tremblay.
Tu as mentionné tantôt que Sophie avait un garçon.
Ouais.
Comment tu vis ça, ton rôle de belle-mère, tu sais, soudainement?
Ça a été pas toujours évident, parce que dans le fond, il y a, c'est un pré-ado. Fait que... mais on a réussi à développer une belle complicité. C'est un garçon qui aime l'eau aussi. Fait qu'on partage la même amour de l'eau. Fait que c'est un peu sur ce lien-là qu'on réussit à développer. Mais c'est difficile de... Sophie et Olivier ont été tellement une équipe toutes les deux ensemble que quand t'arrives la troisième roue, essaie d'embarquer. Des fois, c'est pas toujours évident. Il y a eu une grosse période d'ajustement parce que les trois, on devait s'ajuster, revoir nos attentes. Puis c'est beaucoup de communication, en fait. Puis on est allé chercher de l'aide pour se mettre sur le même palier, de réussir à ouvrir ces barrières. Puis ça a pris un certain temps, mais maintenant, ça va bien. On est une famille, fait que c'est une bonne chose.
Comment est-ce que tu trouves que, disons, la communauté LGBTQ là-bas se compare à ici?
C'est dur à dire parce que moi, là-bas, j'ai plus fréquenté la communauté LGBTQ parce que j'étais célibataire. Bon, on dirait qu'au Saguenay, il y en a quand même beaucoup de gens dans la communauté LGBTQ, puis c'est très ouvert, puis c'est très... J'ai l'impression que ça se ressemble un peu, là, entre Nelson puis le Saguenay, parce que c'est ça, c'est quand même culturel aussi là-bas. Ça, mais ici, ben, j'ai moins fréquenté la communauté, étant donné que j'étais en couple et qu'on aime ça faire nos affaires, se réunir avec nos amis proches, tout ça, mais pas nécessairement sortir.
Au niveau de la communauté francophone, comment t'as décrit?
Être diversifié. Je parle pratiquement français à tous les jours, puis on dirait qu'on découvre des francophones partout, puis sans s'en attendre, tu sais, parce qu'il y en a qui s'impliquent dans la communauté, puis il y en a beaucoup qui s'impliquent pas non plus dans la communauté, fait que c'est surprenant de voir à quel point il y a beaucoup de francophones ici. C'est difficile à rejoindre tout le monde, mais c'est une belle diversité. J'ai quand même réussi à aller chercher, à avoir vraiment un beau réseau, puis un beau cercle d'amis dans le milieu francophone, mais en les découvrant à la miette, tu sais. Pas toutes à la même place, mettons.
Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y ait autant de francophones ou de francophiles en t'en venant dans l'Ouest canadien?
Quand tu y penses, c'est pas si surprenant que ça, parce que c'est tellement... Ce qu'on se rend compte, c'est que les francophones qui sont ici, c'est des gens de plein air qui partagent tout un peu le même mode de vie, parce que, dans le fond... Ils s'expatrient ici pour les mêmes raisons qu'il y a la montagne, puis qu'il y a la nature, le plein air. On se rend compte qu'on partage beaucoup les mêmes valeurs, puis qu'en bout de ligne, c'est pas si surprenant que ça, qu'il y en ait tant que ça, parce que on est attiré par l'endroit, puis par tout ce que l'endroit apporte. T'sais.
Les canaux Hermann, on les voit un peu partout, sont distribués à travers le Canada. Comment t'en es venu à travailler là? Ça a été quoi comme la formation?
Ben, c'est comme je disais, ça a été difficile de me trouver un emploi. Puis au début, quand je suis arrivée, pour une offre d'emploi, il pouvait avoir 100, 150 CV qui étaient remis, tu sais, fait que c'était... Puis ça marchait par contact. Tu sais, j'ai passé quelques entrevues, fait que j'étais quand même chanceuse de pouvoir passer des entrevues, mais il n'en reste pas moins que c'était quand même difficile. Puis là, à un moment donné, tu sais, je passais à chaque jour devant la shop de canot, puis j'avais comme le feeling qu'il fallait que j'arrête. Puis je suis arrêtée à amener porter mon CV. Ils ont décidé de m'engager parce que j'avais pas d'expérience. Mais dans le fond, tous ceux qui engagent n'ont pas d'expérience, puis ils se font former. J'ai appris quand même assez rapidement, là, parce que je suis quelqu'un de manuel, puis qui est méthodique, puis qui a ce qu'il faut pour travailler dans une shop comme ça. Fait que ça n'a pas été trop long que j'ai trouvé ma place. Puis c'est comme une grosse famille. Puis j'aime ça aussi travailler dans des organisations où c'est familial, puis où tu sens que tu fais partie d'une équipe, puis que c'est pas une grosse corporation. Ouais.
C'est-tu la seule shop de Hellman?
Ouais.
Toutes les canaux Hellman viennent de là?
Ouais. Ouais. Tout fait à la main.
Wow! Mm-hmm. Et ça, je savais vraiment pas ça.
Ouais, vraiment une cool business. Là. On essaie de fabriquer 5 canaux par semaine. Ça prend du temps à avoir un canot Hellman, mais c'est des bons canaux.
C'est quoi ta plus grande fierté dans ce travail-là?
Je pense qu'une des affaires que je réussis bien à faire, c'est le gel coat, la peinture. Puis je suis comme devenue un peu la référence. Quand tu vois un canot fini que t'as fait de A à Z, je suis la seule fille dans l'équipe. Je pense qu'autant les filles que les gars peuvent fabriquer des canaux, mais c'est souvent plus un milieu d'hommes qui est le milieu de manufacture. Fait que de voir un canot fini puis que t'as participé à toutes les étapes, c'est pas mal une fierté, ouais.
Est-ce que c'est comme une thématique qui revient souvent dans ta vie d'être dans un milieu d'hommes puis t'sais, de te distinguer ou de...
Je pense que toutes les femmes qui sortent de la zone de confort que la société établit pour les femmes, ben, elles se retrouvent dans ce milieu-là hein, à un moment ou une autre. Mais dans ma famille, on a été élevés à dépasser nos limites, puis à se relever de nos erreurs, puis à foncer. Fait que c'est comme, on dirait que c'est naturel de se retrouver dans des situations comme ça chez nous. Autant que pour moi, que pour ma sœur, que pour mon frère qui peut... Ça a toujours été ça pour tout le monde. Fait qu'on a toujours été poussés à... Puis à encourager, puis c'est comme un peu le legs familial. Fait que c'est comme normal pour nous.
Si vous avez aimé cet épisode... C'est vraiment important de vous abonner à la série Franc Ouest sur la plateforme balado de votre choix et de nous laisser un commentaire 5 étoiles. C'est la meilleure façon d'assurer la survie de notre projet. Et si chaque personne prend le temps de le partager avec un ami, on pourra continuer longtemps à vous faire découvrir notre francophonie sauvage. Franc Ouest. Une production de l'AFCO. Consultante journalistique et rédaction, Marie-Paul Berthiaume. Gestion des médias sociaux, Dania Proux. Graphisme, Louis Fortier Design. Image du logo, Wild Air Photography. Narration publicitaire, Mathilde Van Branteghem. Thème musical, The Great Novel. Ambiance musicale, Cuckoo Tales, Kent Kataoka, Patrick Lack and South Heaven, Xavier Deschaines-Filion. Transcription, France Marchand. Nous reconnaissons l'aide financière de Patrimoine canadien. Je suis Patrick Lack. Merci d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine.